Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast consacré à la F1 avec Stéphane Vrignot qui est en bleu aujourd'hui et qui est encore tout orange dans la tête.
Oui, bah comme beaucoup en fait.
Exactement. Après ce Grand Prix des Pays-Bas, donc on vous a concocté le menu suivant. Avec d'abord, en premier lieu, la schumacherisation de Max Verstappen. T'as vu, j'ai réussi à le dire, pas sûr qu'on y arrivera à chaque fois dans ce podcast. Quatrième victoire de suite pour le champion du monde en titre. Une deuxième couronne en vue. Désormais, Max Verstappen sur une autre planète. Justement, on comparera avec un de ses illustres prédécesseurs, Michael Schumacher. On va parler évidemment de Ferrari, alerte rouge avant Monza, troisième place, pour Charles Leclerc, huitième position au final pour Carlos Sainz qui a été pénalisé par son équipe dans les stands et par également les instances. On y reviendra. Et puis on parlera également d'Oscar Piastri. Piastri, c'est fini cette fois. Le CRB a donné son verdict final. C'est donc terminé entre le jeune Australien et Alpine. Et on reviendra, on élargira un petit peu le sujet sur l'échiquier des pilotes pour 2023. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant avec Stéphane aujourd'hui en parlant de Max Verstappen et de ce qu'on a considéré être la schumacherisation de Max Verstappen parce qu'il est en train de prendre une dimension digne du septuple champion du monde allemand. C'est la 10e victoire pour le Néerlandais cette saison, la 30e de sa carrière. Il a 109 points d'avance désormais sur Charles Leclerc et Sergio Pérez qui sont ex aequo à la deuxième place, avec une pole position qui a été obtenue d'un souffle, hein, c'était 21 millième de seconde sur la Ferrari du Monégasque. Et pourtant, pendant la course, il n'y a pas vraiment eu débat. Il était encore une fois au-dessus du lot, même après la safety car où il s'est réélancé de la deuxième place derrière Lewis Hamilton. Il n'y a pas eu de suspense. C'est la 4e victoire consécutive pour Max Verstappen. Et c'est la première fois dans sa carrière que ça lui arrive de faire le célèbre 4 à la suite. On le dit, on est en train d'assister à la mise en orbite d'un pilote qui pourrait devenir une des légendes de la discipline, une sorte de schumacherisation, Stéphane. On s'est dit, alors comparons un petit peu où en était le pilote allemand par rapport à où en est aujourd'hui Max Verstappen. Ça donne quoi les chiffres?
Après 156 Grands Prix, Verstappen est dans sa 8e saison, Schumacher était déjà dans sa 10e saison. On parle des saisons complètes. Hein. Et donc, là, quand même, là où la différence est la plus notable, c'est en termes d'âge.
Ça, c'est incroyable. Ans, ouais. 24 ans pour Max Verstappen.
Déjà 30 victoires. Et Schumacher, 32 ans au bout de 156 Grands Prix. Alors, le nombre de titres, c'est 1 pour Verstappen. On sait bientôt que ce sera 2. À l'époque, c'est en Allemagne, en 2001, l'époque de ce 156e Grand Prix pour Schumacher, il avait 3 titres déjà. Et on l'a dit, Verstappen, 30 victoires et Schumacher en avait déjà quand même 49.
Ouais.
Voilà, ça c'est ce qui change. Alors, ce n'est pas pour établir des comparaisons, je dirais, directes, mais c'est pour montrer un petit peu le tableau de marche de Verstappen. En ce qui concerne les pole positions aussi, on voit qu'il n'a pas la moitié de ce qu'avait Michael Schumacher à l'époque, 17 contre 40. Il y a quelque chose quand même qui ressort dans le style Verstappen comparable à celui de Michael Schumacher, c'est les hat-tricks, c'est-à-dire le combo pole position en victoire, meilleur tour en course. Dimanche, c'était le cinquième quand même de Verstappen. C'est quelque chose qui est difficile à obtenir, même pour les plus grands. Et Schumacher en avait 8. Donc, il n'y a pas un écart énorme. Et même sur les grands chelems, ce qu'on appelle la combinaison, le hat-trick plus le leadership total en course, tous les tours menés, eh bien, Verstappen en a 2 et Schumacher aussi. Mais ce qui nous a fait penser vraiment à un rapprochement avec Schumacher, finalement, c'est aussi le style là, qui est devenu implacable. Et l'évolution aussi du personnage qui était très agressif au début de sa carrière. Schumacher l'est resté jusqu'au bout, je dirais. Mais là, Verstappen est quand même un petit peu en train de se lisser. Alors, dans les statistiques, c'est vrai que c'est impressionnant, mais je trouvais qu'il nous fait peut-être un Schumacher 2.0.
Oui, alors effectivement, c'est pour ça qu'on a fait cette comparaison. Je pense que l'adoucissement de Verstappen, c'est un peu bizarre comme terme, je pense qu'il est un petit peu factice. Il est factice parce que pour l'instant, tout va bien chez Red Bull et qu'il n'a pas vraiment d'adversaire cette saison. Donc, il a beau jeu, effectivement, quand il doit remonter dans le peloton à Spa, et bien finalement d'être assez prudent, de pas finalement agresser ce qu'il sait qu'il va pouvoir dépasser tranquillement, alors que Schumacher, si on se souvient bien, bon, il y a eu déjà ses premiers titres chez Benetton, et ensuite, quand il est arrivé chez Ferrari, il a eu 4 premières saisons chez Ferrari, où ça a été la guerre, où la Ferrari était dominée par la Williams-Renault sur les deux premières saisons, hein, Damon Hill et Jacques Villeneuve, qui avaient été sacrés champions du monde. Jacques Villeneuve, 97, on revient pas sur la conclusion de cette année-là. Ensuite, c'est McLaren-Mercedes qui avait pris le relais avec Mika Hakkinen. Donc, ça avait vraiment toujours été la bagarre pendant 4 longues saisons avant finalement la véritable consécration et ce troisième titre dont on parlait tout à l'heure, hein, pour Michael Schumacher. Donc, quelque part, il a été obligé, Schumacher, d'être plus agressif plus longtemps dans sa carrière. Je suis à peu près persuadé que si Verstappen, demain, avait un adversaire comme il l'a eu avec Lewis Hamilton l'année dernière, il redeviendrait aussi agressif qu'il doit l'être et que la situation l'exige de l'être pour un pilote de Formule 1.
Ce que je trouve quand même, tu as remarqué cette année, c'est que c'était un petit peu nouveau chez Verstappen. Il a laissé filer parfois des adversaires qu'il attaquait parce qu'il se savait moins fort en termes de potentiel des pneus, hein, tout simplement. Et puis une attaque au DRS, cette année, on a vu que ça marche dans les deux sens. Hein. Verstappen l'a expérimenté ses derniers Grands Prix, ça passe, mais tout seul. Mais quand il était attaqué aussi avec un adversaire qui avait cet avantage-là, il n'insistait pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu un mauvais coup de roue, quelque chose de tendancieux cette année. C'est assez surprenant. On en est déjà à 15 Grands Prix, alors qu'au début de sa carrière, il y avait un incident ou un acte défensif vraiment outrancier tous les 3-4 Grands Prix. C'était la retombait sans arrêt dans la polémique. Je trouve qu'il s'est lissé par rapport à ça. Et puis, il le répète, surtout l'objectif, c'est terminer les Grands Prix. C'est pas d'abandon. Il y a quelque chose de... quand même aussi d'assez incroyable qui fait penser à Schumacher, c'est qu'il gagne et ça lui donne encore plus l'envie de gagner.
Oui, là on sent vraiment qu'il n'est pas du tout sur le point d'être rassasié. Autre point commun aussi avec Michael Schumacher, c'est le premier champion du monde de son pays. Il n'y avait pas eu de champion du monde allemand avant Michael Schumacher. Bon, il y en a eu deux depuis évidemment, hein, Sébastien Vettel et Nico Rosberg. Je suis persuadé que ça joue. Dans un pays, quand on ouvre la voie, là, quand on voit l'engouement qu'il y a aux Pays-Bas, forcément, ça ramène à l'époque de Michael Schumacher sur ce qui se passait à Hockenheim, où avait lieu le Grand Prix d'Allemagne. Après, on a eu aussi le Nürburgring, où il y avait aussi le Grand Prix d'Europe pendant un moment. Donc ça aussi, c'est un point commun, ce côté un petit peu précurseur, prophète en son pays, avec la pression qu'il faut savoir gérer. Et ça, la pression, on voit qu'il en a fait désormais juste un élément dans sa configuration de course. Mais là, en ce moment, je parlais d'une mise en orbite en ce moment. Même la NASA a décidé de retarder le décollage de Artemis. Ils attendent en fait que le championnat soit terminé pour mettre Max Verstappen au volant, en se disant comme ça avec lui, comme en plus son sponsor est réputé pour donner des ailes, comme ça avec lui il nous pose sur la Lune, on est peinard, il n'y a pas de souci, il va nous faire un créneau bien posé. Non, au-delà de la plaisanterie, il y a J'aimerais bien dire aux gens qui nous regardent qu'on est peut-être en train de vivre une sorte de privilège en ce moment avec vraiment l'explosion d'un pilote qui va marquer l'histoire de la Formule 1. Ça va avoir sans doute des côtés un petit peu rébarbatifs parce qu'il y a eu des saisons où voir Michael Schumacher commenter, Michael Schumacher qui gagne Grand Prix après Grand Prix après Grand Prix, parfois c'est un petit peu redondant. Et en même temps, ben, quand ça s'arrête, et quand malheureusement parfois la vie porte des mauvais coups à ces légendes, eh ben on se dit ouais quand même, mais on était là. Là, c'est un peu ce qu'il faut se dire aussi.
Ah, on est privilégié de vivre ça. Là, ce qui se passe, c'est peut-être aussi le début d'une ère à la Vettel, hein, quatre titres de champion du monde suite, doublé pilote constructeur, même si l'année dernière Red Bull n'avait pas eu le titre constructeur. Là, ils vont l'avoir cette année. Et dimanche, ce qu'on a encore vécu là, c'est ce qu'on a vu. C'est la confiance que Verstappen faisait à son équipe quand elle lui a dit, au moment de la voiture de sécurité virtuelle, il faut mettre des pneus durs. Et là, frisson quand même, ça ne lui plaisait pas, il savait qu'il n'était pas performant. Ces pilotes-là n'en voulaient pas, enfin, les pilotes n'en voulaient pas tellement, alors on l'a vu après, à part chez Mercedes, mais lui n'en voulait pas tellement, il n'était pas performant, il l'a dit après, mais il les a acceptés comme... quelque chose, un passage obligé, je dirais, et puis ça a duré quelques tours, et il a eu une autre opportunité derrière, et là encore, banco, c'est pareil, il a fait confiance à son équipe, et c'est exactement ce que faisait Michael Schumacher à son époque, à l'époque de la grande écurie Ferrari de Jean Todt, les stratèges qui proposaient des plans de course absolument ciselés, inventifs, surprenants, alors, parce qu'il y avait aussi certainement un petit peu de marge. Mais là, en fait, il fallait jouer serré. Je pense que ce serait terminé, quoi qu'il arrive, aussi comme à Spa, quand on a dit qu'il aurait pu gagner de la dernière place. Et vu ce qui s'est passé, vu la puissance du DRS encore à Zandvoort, je pense qu'il aurait pu aussi remonter, surtout avec deux interventions de la voiture de sécurité virtuelle et réelle. Donc, il a de la marge. Mais je dirais qu'il est toujours au taquet. Et à la fin, d'ailleurs, il a dit il faut qu'on reste dans cet esprit-là.
Oui, oui.
Et si tu regardes bien, ça fait quand même 4 fois que Red Bull réalise le meilleur chrono lors d'un arrêt au stand. Et là, c'était même un record pour Sergio Pérez. Les gars sont vraiment à fond. 2,09, c'est le nouveau record de la saison, qui efface le précédent record de Pérez, 2,19. Ça veut dire qu'on lâche rien, chez Red Bull. Et il demande ça, il est très demandeur de ça. Et tu as vu, en plus, les plans de la télévision sur le pit wall pendant la course, sur la stratège de chez Red Bull, en voulant dire, c'est vraiment là que ça se joue. Ils sont en connexion et Verstappen va les écouter. Et d'ailleurs, là encore, il n'y a pas eu une réflexion ni rien, pas un doute émis. Il faisait le point tranquillement sur ses pneus, ils sont bien ou ça commence à être moins bien. Et puis ça roule, quoi.
Exactement. Et tu as raison, c'est un autre point commun avec Michael Schumacher, c'est qu'il n'y a pas que le pilote. Il y a derrière une équipe, un petit peu à la manière de Jean Todt avec Ross Brawn. Et bien là, derrière, vous avez Christian Horner avec Adrian Newey qui a conçu la voiture. La stratège de Red Bull qu'on est en train de mettre de plus en plus en avant, bah oui, en plus, c'est une jeune femme. Elle est assez télégénique en plus. Donc là, pour la Formule 1, tous les caractères sont réunis pour passer devant. Voilà pourquoi on vous dit qu'en ce moment, on est en train d'assister à une période un petit peu particulière où Max Verstappen prend la direction de celle de Michael Schumacher, d'un Lewis Hamilton aussi récemment, même si ça a été un petit peu plus progressif pour Lewis Hamilton. Et juste une toute petite parenthèse, il y a d'un côté cette accession-là, on va dire, à l'hyperespace pour Max Verstappen, et ça rend nerveux les autres. On a vu Fernando Alonso perdre un petit peu ses nerfs contre Lewis Hamilton à Spa sur une erreur de Lewis Hamilton, mais en disant « Ouais, de toute façon, il ne s'est pas roulé autrement qu'en partant devant ». Enfin, c'était un petit peu excessif comme procès. D'ailleurs, il s'en est excusé par ailleurs. Et là, on a vu un Lewis Hamilton sur la fin de course absolument furibard contre son équipe. On a même été obligé du côté de la Formule 1 de biper les déclarations du septuple champion du monde tellement, en gros, il accusait son équipe de lui avoir porté préjudice dans des termes beaucoup plus insultants que ça. Et en fait, moi je me dis, Alonso et Hamilton, ils comprennent qu'ils ne seront plus jamais champions du monde parce que ça y est, on est rentré dans l'ère Verstappen et on va en ressortir à un moment où eux seront déjà trop âgés.
Alors pour Alonso, il ne se fait pas d'illusion, hein. Il passera une Aston Martin l'an prochain.
Ah oui, mais je suis persuadé qu'il est convaincu qu'il pourra gagner.
C'est pas une blague. Oui, je pense qu'autrement, il serait pas là, c'est clair.
Ouais, ouais.
Alors, Hamilton, j'ai quand même des réserves parce que l'écurie remonte un petit peu la pente. Mais ce qui est aussi assez marrant, c'est que par rapport à Schumacher, sa seule faiblesse aujourd'hui, c'est son coéquipier. Et on le voit de plus en plus, ce qui est assez incroyable. Et Sergio Pérez s'est fait un peu rabrouer quand même par Helmut Marko, parce que c'est lui qui reprenait le programme entièrement de travail lorsque Verstappen a eu son problème de boîte de vitesse après 7 tours simplement lors de la première séance d'essai le vendredi matin. Et Marko, enfin le vendredi après-midi, parce que maintenant c'est à 14h, ouais. Helmut Marko a dit il ne va pas assez vite, rapidement, oui. Je veux dire, d'entrée, il ne sort pas des chronos et ça, Verstappen en a quand même pâti. Alors, pas complètement, parce que Pérez a fait un tête-à-queue qui a un petit peu alimenté la théorie du complot.
En fin de Q3, on ne va pas nous faire un Zandvoorgate quand même.
Bien sûr que non. Mais il y a eu aussi, alors là, c'est vraiment tout va dans son sens cette année, cet abandon un petit peu bizarre de Yuki Tsunoda, de Red Bull en course. Et Toto Wolff a dit, bon, on ne va pas rentrer en ce débat-là, ce n'est pas la théorie du complot, mais quand même, je lutterai pour le titre mondial, je me poserai quand même des questions. Et il a demandé un petit peu à en savoir plus sur cet abandon qui était complètement bizarre aussi et qui a déclenché l'intervention de cette voiture de sécurité virtuelle. Et ça, ça a suffi juste à le remettre, à le recaler par rapport à Lewis Hamilton qui avait le dessus et qui pouvait certainement l'emporter. Qui avait une bonne chance de l'emporter, et là c'était fini. Donc il a aussi la chance cette année, la baraka totale.
Ouais, exactement.
Verstappen à la baraka, c'est ce qu'il faut un champion du monde, c'est ce qu'avait aussi un peu Schumacher à son époque. Bon.
La chance des champions pour Max Verstappen, donc en voie de Schumacherisation. On verra s'il sera canonisé, puisqu'on sera en Italie le week-end prochain. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans les fous du volant pré-Grand Prix d'Italie, c'est évidemment encore une fois la Scuderia Ferrari qui n'arrive pas à se dépêtrer de ses problèmes. On a l'impression de vivre un jour sans fin quand on est fan de la Scuderia. Énième boulette de Ferrari dans les stands avec un début de course. Et qui pouvait, alors il était limite en termes de performance, mais Carlos Sainz rentre dans les stands pour son premier arrêt au stand, il est troisième, donc on se dit qu'il peut y avoir des choses intéressantes, et il en ressort, je crois, huitième, ouais, c'est ça, parce qu'il a passé 12 secondes à l'arrêt dans les stands, la faute à une roue arrière gauche qui était manquante au moment des arrêts au stand.
Ça le met en fait virtuellement derrière Pérez et les Mercedes sur la logique du plan de course, je dirais. Donc là, c'est 3 places perdues, c'est énorme, c'est une catastrophe. Un arrêt de 12 secondes 7. Et puis, quand on regarde bien, surtout, c'est qu'il laisse traîner un pistolet de rechange. C'est juste incroyable, c'est la panique totale. Et on voit ces trous qui manquent et tous ces mécaniciens qui sont figés, qui sont basculés dans la quatrième dimension. Là, ils ne savent pas quoi faire, il manque une roue.
Alors, j'ai regardé attentivement la séquence, les images vidéo, et en fait, ce qui se passe, la roue n'est pas manquante. Le problème, c'est que, alors il a fallu associer plusieurs sources d'informations, le problème, c'est que, du côté de la Scuderia, comme toutes les équipes, on essaye de déterminer le moment limite, vraiment maximum, où on peut prendre la décision de faire rentrer une voiture dans son stand ou pas. Parce qu'il y a évidemment un délai. Au moment où vous dites à un pilote « rentre au stand », il faut que les mécaniciens aient le temps d'aller à l'armoire où les pneus sont au chaud et de les ramener physiquement, de les porter physiquement jusqu'à leur emplacement dans la voie des stands. Ça, c'est identifié, c'est assez simple à identifier, hein, le moment limite où on peut. Sauf que pour l'arrêt de Carlos Sainz, malgré la connaissance de cette limite, on avait peur de se faire undercuter par Lewis Hamilton. Et donc, malgré que cette limite ait été dépassée, on a quand même enclenché le passage au stand. Et en fait, le mécanicien, au moment où la voiture ou Carlos Sainz arrive, il est devant, physiquement, il est devant la voiture. Il a le pneu dans les mains et évidemment, il ne va pas passer par-dessus la voiture. Et il ne peut pas contourner les mécaniciens en passant derrière eux, parce que c'est la voie de circulation et qu'il y avait Sergio Pérez qui était donc géographiquement derrière la voiture de Carlos Sainz. Et Pérez allant ressortir des stands, le mécanicien ne pouvait pas emprunter cette piste parce qu'évidemment c'est interdit. Donc il était bloqué là et il y a eu ce temps de latence où en fait tout le monde se regardait en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et oui, il fallait attendre que Pérez passe, que les mécaniciens s'écartent pour que celui qui avait la roue arrière gauche puisse l'installer.
Alors, mais les trois autres roues sont en place quand même, et je te poserai moi deux questions, c'est pourquoi que ça n'arrive qu'à Ferrari?
Ça c'est le vrai problème.
Et deuxième chose, quand un pilote se pointe dans la pit lane, le pit crew doit être prêt. C'est une autre règle évidente. Pour moi, ça c'est ce qui est un petit peu choquant. Et puis, je dirais que Ferrari, ils font un petit peu les malins quand même en sortant, en faisant des fausses alertes aussi, en faisant croire que...
Alors ça, c'est... Normalement, voilà, c'est interdit par le règlement, et on l'a vu plusieurs fois. Mais pas que chez Ferrari, d'ailleurs.
Bien sûr, mais je dirais qu'il faudrait peut-être d'abord se concentrer sur les process, et c'est là-dessus que ça pose problème chez Ferrari. Mais je dirais quand même qu'en d'autres temps, Jean Todt avait proposé sa démission pour une affaire comme ça.
Et c'est ça qui était
étonnant. Au Nürburgring en 99, heureusement refusé, bien entendu. Mais Mattia Binotto, ça lui passe mais 3000 au-dessus de la tête. Ce n'est pas son problème, il l'a d'ailleurs bien dit. Et Nico Rosberg a été assez sévère, mais peut-être juste, mais plus que sévère, parce qu'il est consultant sur Sky Sport. Il a dit, mais en fait, même les écuries de F2 et de F3, font un meilleur travail de stratégie et au pit stop. Et à un moment, il va falloir du changement.
C'est sûr.
Et Binotto lui a donné la réponse tout de suite. Nous ne changerons pas les gens, je le cite, c'est la réponse à Rosberg. L'important, c'est la stabilité et de progresser course après course.
Oui, mais là, il n'y a pas de progression.
Alors, il n'y a pas de progression. La semaine dernière, on parlait de cet écart entre les meilleurs tours en course de Leclerc par rapport aux meilleurs tours en course de Verstappen. On avait trouvé que 6 dixièmes, c'était beaucoup. À Spa, parce que le circuit était assez long, et bien là, figure-toi que c'était 7 dixièmes
sur
le circuit de Zandvoort, tout à fait.
Qui est beaucoup
donc
plus
ça
court.
Veut dire, tout à fait, c'est le deuxième circuit le plus court en termes de temps de l'année. Donc, ils ont replongé sévèrement. Problème de pneus, d'exploitation. Enfin là, on est sur des soucis à 360 degrés. Quoi.
Exactement. Et c'est pour ça qu'au final, Mattia Binotto, il a à moitié tort quand il dit que le vrai problème à la Scuderia, c'est pas les passages au stand, c'est le manque de performance. Là-dessus, il a raison, mais... L'un ne remplace pas l'autre, en fait. Il va falloir essayer de résoudre les deux. Je comprends que pour l'instant, il soit obnubilé par le déficit, désormais, de performance de la Ferrari par rapport à la Red Bull. Mais on ne peut pas continuer comme ça à passer pour la risée du paddock en faisant des erreurs aussi monumentales que ça dans les stands. Il y a une équipe d'exploitation, mince, à la Scuderia.
Il y a un
moment, il faut savoir qui est le responsable.
On avait dit quand même la stratégie ou celui qui règle le balai quand même des arrêts au stand.
Oui, parce que là, ce n'est pas la stratégie qui est en cause.
Parce que ça fait partie de la course. La course aussi se passe à ce niveau-là.
C'est de la Formule 1.
C'est une vraie arme. Bon, et je me posais la question quand même, qui est l'ingénieur performance chez Ferrari? C'est Joe Clear. C'est comme un vieux de la vieille qui est passé chez Barr, qui est passé chez Mercedes, qui a une grosse expérience, c'est quelqu'un qui a presque 60 ans, qui a vraiment roulé sa bosse, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, et puis je me suis dit, c'est peut-être Binotto qui est responsable de la contre-performance, comme on le voit régulièrement, et qui ne l'assume pas. Voilà, tout simplement, c'est récurrent. Et il ne veut même pas entendre parler du sujet.
Hein. Non, mais
pour lui, c'est un non-sujet, il se cache derrière. La performance insuffisante globale de la voiture. Mais bon, il faut tout aligner pour arriver à quelque chose. Alors après, on ne s'en sort plus. On a l'impression de revoir le même film. Et figure-toi qu'il y avait déjà eu un problème au niveau de Sainz, roue arrière gauche. Je vois en gris, arrête 4 secondes 6, par exemple. Hein, je vous dis ça comme ça. Il était passé de la première à la cinquième position. Bon, quand tu as un arrêt au stand, forcément, tu perds des positions. Mais c'est voilà, quand ça se joue à quelques centièmes près. Là, on va à Monza. C'est dans la ligne droite des stands, c'est 360 km/h à peu près. Hein. Donc, c'est 100 mètres par seconde. Ça veut dire que 1 ou 2 dixièmes, ça coûte cher en bout de freinage et tu peux laisser passer une ou deux voitures comme ça. Ça veut dire que là, les dixièmes sont chers, qu'il va falloir resserrer les boulons très, très vite. En plus, à Monza, ils vont avoir une pression absolument démentielle.
Pression colossale parce que à Monza, évidemment, c'est le Grand Prix d'Italie. Vous imaginez bien que Ferrari... C'est la Squadra Azzurra, bon, sauf qu'ils sont, en rouge, mais c'est vraiment l'équipe nationale d'Italie de Formule 1 et qu'on peut perdre à la fois la deuxième place du classement des pilotes pour Charles Leclerc, qui la partage pour l'instant avec Sergio Pérez. Pour l'instant, il est devant au nombre de victoires, mais il a le même nombre de points que le Mexicain. Il peut la perdre par rapport à Sergio Pérez, il peut la perdre aussi par rapport à George Russell, qui est à 13 points seulement
du duo Mexico-Monégasque. C'est pas le but de l'esprit, hein.
Et donc il peut se retrouver quatrième du championnat.
Hein.
Et on parle aussi du classement des constructeurs. Ferrari ne rêve même plus d'aller rechercher Red Bull. Maintenant, on regarde derrière ce qui se passe. Mercedes se rapproche. Mercedes, il n'y a plus que 30 points d'écart. On peut assister au Grand Prix d'Italie à Ferrari avec Leclerc, quatrième du championnat en quittant Monza, et Ferrari doublé par Mercedes en quittant le Grand Prix d'Italie.
Et à la fin du Grand Prix donc à Zandvoort, Leclerc n'a pas réellement commenté la performance de Verstappen. Il s'est attardé sur le cas de Mercedes en disant qu'ils étaient très très bien en pneus durs, ouais, et en pneus médiums, et nous on a des problèmes à ce niveau-là. Il sait très bien que maintenant il doit regarder
l'adversaire, c'est Mercedes, clairement. Et alors en plus, on va avoir une commémoration du côté
anniversaire d'Italie de la création de l'automobile, de l'autodrome de Monza, le temple de la vitesse. Commémoration, encore une fois, de la part de Ferrari, il y a une petite touche de jaune apparemment qui est attendue sur la F1 75.
Et alors justement,
qui est aussi la voiture commémorative des 75 ans de la création de la marque en 1947.
Et ces versions commémoratives ne marchent pas très très bien quand même chez Ferrari.
Mais en fait, moi ce que je remarque un petit peu, c'est que Ferrari vient un petit peu dans son passé en attendant de retrouver une période faste. Dernier titre pilote 2007 avec Kimi Räikkönen, dernier titre constructeur 2008 face à Mercedes en particulier, mais qui avait été déclassé, disqualifié à cause de l'histoire d'espionnage de l'année précédente. Et puis l'année suivante, on a commencé à faire des, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, des appellations commémoratives. Alors F60, zéro victoire en 2009, voilà. Donc c'était pas très bien vu quand même. La 150 Italia pour la 150e, le 150e anniversaire de l'unification de l'État italien, voilà. Donc c'est une victoire
en 2011,
et ainsi de suite. Donc 5 victoires quand même pour la voiture de 2017 pour les 70 ans de création de la
Ferrari,
marque, voilà. Et puis 2 ans plus tard, 3 victoires pour la voiture qui commémorait les 90 ans de la création de la Scuderia Ferrari en 1929, et Enzo Ferrari faisait courir des Alfa Romeo au départ. Et puis là, alors le pompon, vraiment, c'est 2000, on dispute notre millième Grand Prix, allez, on y va.
Ouais.
Toute l'année, hein, ils ont fait ça parce qu'ils revenaient d'une saison en enfer, et le moteur avait été réduit, remis dans les règles par la FIA. Et là, c'était la saison de la catastrophe, zéro victoire, tu te rends compte. Hein, au Mugello, je crois que c'était une 5e place pour Charles Leclerc. Et une 12e, je crois, pour Sébastien Vettel, ou l'inverse. Bon, enfin, c'était vraiment un Grand Prix anonyme. Et puis là, bon, cette année, 4 victoires quand même, mais ça ne donnera pas un titre mondial, ni chez les pilotes, ni chez les constructeurs. Et pour ces 6 F1 commémoratives, 13 victoires, simplement. Donc, chez Ferrari...
devrait arrêter peut-être. Ouais.
Oui, tout à fait.
Fermer le musée, là, et mettre les gens du musée peut-être à bosser sur, sur le changement de roue, quelque chose comme ça. On peut imaginer quelque chose. Bref. Il y a quand même là une pression énorme. Et je vais te dire, il y a quand même des gens dans le paddock qui se disent « Mais comment ça se fait qu'on ne change pas ?» Évidemment, on n'est pas en train de dire « Il faut jeter tout le monde dehors. » Mais comment est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation? Comment est-ce qu'il n'y a pas un travail? C'est assez exceptionnel de voir la façon dont on essaye finalement de faire diversion en disant « Non, mais c'est un problème de performance. » Il y a aussi un problème de performance. Mais je suis désolé, en sport, si on ne regarde pas ses propres faiblesses, on n'y arrivera jamais. J'ai l'immense plaisir sur Eurosport de commenter l'escrime. Et Isaura Tibus m'a expliqué qu'elle a changé de préparateur mental. Et cette dame, premier exercice, on regarde tes combats et tu vas regarder toutes tes faiblesses. Exercice terrible pour un sportif. Elle m'a raconté ça en préparation des championnats du monde. Elle m'a dit « J'ai passé des heures abominables. » Elle a été championne du monde. Quand on travaille sur ses faiblesses, on progresse. Voilà peut-être le message qu'on pourrait faire passer à nos amis de la Scuderia Ferrari. Ça ne sert à rien de regarder ailleurs. Il faut regarder ses difficultés pour progresser. On espère que ça va bien se passer pour la Scuderia ce week-end. Parce que alors là, si ça se passe mal, ça va être la soupe à la grimace, hein, dimanche soir. s'il faut faire retentir l'hymne néerlandais, et on ne voit pas comment il pourrait en être autrement, mais qu'il y a une vraie Bérésina côté italien, ça va être chaud lundi dans la presse italienne.
Et puis surtout que là, un bon résultat de Verstappen combiné à une performance moyenne simplement de Charles Leclerc, ça pourrait donner déjà la première balle de match à Verstappen pour le titre dès le Grand Prix suivant à Singapour. Donc là, ça serait quand même assez dur.
Exactement. Le troisième sujet que l'on voulait évoquer avec Stéphane aujourd'hui dans Les Fous du Volant, c'est évidemment l'affaire Oscar Piastri. Piastri, c'est fini. Voilà, et dire que c'était le premier amour d'Alpine. Voilà, Oscar Piastri donc qui a été finalement conforté par le CRB, le Contract Recognition Board, donc cet organe mis en place par la Formule 1 pour régler tous les problèmes de contrat, justement, entre les pilotes et les différentes équipes. Voilà ce qui a été publié le 2 septembre. Le tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par le conseil d'administration est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri daté du 4 juillet 2022. Au passage, on note que c'est le 4 juillet 2022. C'est pas du tout fin juillet, début août, comme on en avait parlé à un moment. Monsieur Piastri est autorisé à conduire pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2024. Ça y est, et d'ailleurs, ça a été formalisé dans la foulée. Piastri sera aux côtés de Lando Norris l'année prochaine chez McLaren. Alors, il y a eu dans la foulée un communiqué d'Alpine qui disait qu'ils accusent réception de cette décision. Et en gros, on passe à autre chose.
À voir s'il y a quelque chose encore à monnayer, parce que Piastri est quand même sous contrat encore pour jusqu'à la fin de la saison 2022. Qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Lui faire passer des heures au simulateur de coaching, c'est le préparer pour l'adversaire, donc c'est pas la peine. Mais alors, le bureau de reconnaissance des contrats a quand même mis 4 jours au lieu de 2 pour trancher, donc c'était quand même assez complexe. Et dans cette histoire, il y a juste une chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que Alpine était persuadé qu'ils avaient des droits sur le contrat de Piastri en 2023. Il nous avait expliqué qu'il l'avait fait rouler en 2021 dans une ancienne F1, qu'il continuait de le préparer cette année et qu'ils avaient la main sur son contrat et qu'à partir du moment où il lui proposait quelque chose, il devait l'accepter. Donc ça, c'est encore un petit peu un mystère, mais le bureau n'a pas voulu s'étendre sur les détails. Bon, voilà.
Moi, la vraie information de cette note, juillet. Je te dis, c'est le 4 juillet. 4 parce juillet, que c'est quasiment un mois avant Vettel prenne sa retraite, que Alonso aille chez Aston à la place du pilote allemand. Il y a un décalage d'un mois. Là. Il y a un mois où, en gros, Alpine était dans le néant. En tout cas, ne savait pas que son pilote était ailleurs.
Oui. Alors, nous, on s'était interrogé. J'avais un peu poussé un coup de gueule. Tu te souviens, Gilles, juste avant le Grand Prix de France, on avait dit, mais pourquoi est-ce que les top teams ne font pas plus rouler les jeunes pilotes, et spécialement Alpine? On attendait le jeune Piastri au Castellet pour dire, ben voilà, c'est l'équipe de France, Alpine, c'est les Bleus, et voilà le pilote du futur, et le champion du monde dont on a envie. Red Bull nous a annoncé assez longtemps à l'avance Verstappen, McLaren par rapport à Hamilton aussi, etc. Là maintenant, Leclerc, c'est le prochain champion du monde de Ferrari, ils le redisent. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne nous racontait pas la même histoire du côté d'Alpine? Parce qu'on croit très très fort en cet authentique espoir. Et c'est là où je m'interrogeais et on disait globalement, en fait, ils ne font pas rouler Piastri. Et c'est ça le problème, le souci. Gilles, mets-toi 2 secondes à la place de ce pilote qui gagne 3 championnats de suite. Formule Renault Eurocup, donc le championnat d'Europe, le plus gros championnat, la Formule 4, puis la Formule 3, puis la Formule 2, ces 2 derniers championnats en tant que rookie. Ouais. Il a l'impression qu'il va déplacer des montagnes. Il est impatient d'arriver en Formule 1 parce qu'il sait qu'il peut prouver quelque chose et il a tourné donc les sessions qu'il a fait. Chez Alpine, on dit qu'il a fait quand même, il a sorti des chronos qui étaient assez impressionnants. Et au lieu de le faire rouler en 2022, eh bien Alpine le fait tergiverser. L'année dernière, on se demandait déjà ce qu'il allait devenir, mais Alonso était sous contrat. Alpine ne lui a pas trouvé de volant. Alors, on pensait, par exemple, chez Williams, hein, c'est quand même bien pour débuter, pour se montrer. Et puis, ça aurait quand même un énorme avantage, c'est de le faire rouler pendant un an. Et dans le cas où, d'un départ d'Alonso, on se serait dit, bah, s'il fait des étincelles chez Williams, on le monte tout de suite dans l'écurie.
À la George Russell.
Voilà. Mais ils n'ont pas voulu voir ce que ça donnait. Ça, je trouve ça mais absolument hallucinant. Et Gilles, quand tu as un jeune pilote comme ça dans ton académie, tu le fais rouler, c'est tout. Là, il y a Zach Brown qui a donné quelques conseils à Alpine en disant, mais quand vous avez des jeunes, il faut leur signer un contrat. Wolf a dit, là, je vais recruter des juristes pour border tous mes contrats parce que c'est quand même assez important. Et bah, Zach Brown, si tu te souviens, avec Lando Norris, en 2018, il est dans son année de Formule 2 et il lui fait faire les 24 heures de Daytona avec Alonso pour lui faire prendre de l'expérience. Et Alonso avait été dithyrambique à l'époque sur cette expérience du jeune Lando Norris. Il avait dit à 18 ans, il a fait des relais très impressionnants en termes de travail d'équipe, de préparation, de concentration. Tout ça, c'est formateur, tout simplement. Ce n'est pas de la Formule 1, mais tu apprends quelque chose. Et Norris, sur un relais de nuit, dans une situation un petit peu compliquée, ne slick sur une piste un petit peu grasse, on va dire.
Et Daytona, c'est très particulier.
Voilà, il avait fait un exploit. Il avait repris 33 secondes, je vois, une vingtaine de tours au leader. Ça veut dire que il avait appris quelque chose et comme par hasard quand même, dans des conditions d'adhérence précaires, Lando Norris s'est quand même signalé plusieurs fois en Formule 1 depuis le début de sa carrière. Ça veut dire que tu apprends. Même Ayrton Senna, dans sa première année, il avait fait les 24 heures du Mans avec Porsche en 84 parce que tu apprends, tout simplement. Et là, moi, j'aurais été juste à la place de Alpine. J'aurais dit, mais on va te faire rouler. Tu vas faire justement ces 24 heures de Daytona. Tu peux faire Sebring. Et puis, on peut te mettre dans l'Alpine, tout simplement, de WEC. Spa, les 24 heures du Mans, il va apprendre quelque chose. Derrière, tu le fais intervenir sur 3 ou 4 séances d'essai libre 1 des grands prix peut-être exotiques
c'est ça qui est
pour
le
lui faire
étonnant.
Apprendre. Et puis ça lui fait quand même une saison. Et puis, tu travailles la communication, tu tisses
et puis tu le prépares.
Le pilote,
voilà,
tu le prépares. Et là, en fait, les gens ne savaient pas qu'il était Piastri. On nous disait qu'il était dans le vivier de. Mais on ne voulait pas lui donner un rôle, quelque chose. Et puis, Piastri. Il a compris qu'on lui proposait peut-être un volant chez Williams, mais l'année prochaine, et surtout qu'on voulait re-signer Alonso. Et là, il se dit, mais on fait patienter en 2022, je ne sais pas ce que je vais devenir en 2023. Et puis, si c'est pour monter dans les voitures en 2024, ou 2025, parce que
c'était à un moment, on ne sait plus.
Voilà, on ne sait plus du tout. Bon, et puis, il s'est dit, on ne fait pas confiance.
Et puis, alors, moi, j'y vois deux problèmes. D'abord, effectivement, il va peut-être falloir apprendre quand même à mieux rédiger des contrats du côté de chez Alpine. Et deux, il y a un problème aussi, quand vous êtes champion de la Formule 2 et que vous ne montez pas directement en Formule 1, bah c'est que le système ne fonctionne pas bien. On l'a déjà dit, mais on a eu l'exemple Nick De Vries. Alors Nick De Vries, maintenant, on le voit partout. Là, ce week-end, ce week-end à Zandvoort, il était absolument partout sur les images du réalisateur. Mais Nick De Vries, il a été champion de Formule 2, il a enchaîné avec un titre en Formule E, et il n'est toujours pas en Formule 1. Là, il y a déjà un problème. Et puis, il y a un problème sur les académies de pilotes. Il y a un moment où, si ça débouche plus sur rien, bah, c'est à se demander si ces académies elles-mêmes ont une raison d'être. Et ça, il va falloir... les équipes y réfléchissent, d'ailleurs, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Il faut s'en occuper des pilotes.
Oui, c'est un investissement. Parce que incohérences, on va dire. En tous les cas, c'est sur un autre cas, mais... les académies de Formule 1, ces viviers-là, on posait la question, mais nous, on investit. Et quand on voit partir un pilote comme Piastri, ben, on n'a pas le retour sur investissement. Bon, mais sauf que, tu te souviens, l'année dernière, maintenant même pas, c'est cette année, Guanyu Zhou a débuté chez Alfa Romeo alors qu'il était formé chez Alpine. Il a même roulé en essai libre 1. Avec Alpine, je crois que c'était en Autriche l'année dernière. Donc ça veut dire qu'Alpine l'a préparé, ils l'ont laissé partir. Voilà, puis on n'en a plus entendu parler. Je ne sais pas s'il y a eu un accord ou quelque chose après avec Alfa Romeo pour une sorte de dédommagement au titre de sa formation. Mais en tous les cas, ils sont capables aussi de laisser partir un jeune comme ça. Donc est-ce que ça a fait réfléchir aussi Piastri? Et puis là, maintenant, on voit quand même qu'ils ont d'autres jeunes talents. Jack Doohan, qui... Donc, pour le coup, apparaîtra peut-être lors d'une séance d'essai libre 1 d'ici la fin de la saison, puisque qu'est-ce qu'il reste ? Mais il y a aussi Victor Martins, maintenant qui est en tête du championnat de Formule 3, qui fait partie de cette académie. Et là encore, je vais te dire, pour une question de cohérence, on se pose des questions parce que Victor Martins, sous le nom d'Académie Renault. Il a été remercié, je dirais, et puis il a été repris. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut un fil conducteur, il faut aussi nous raconter une histoire, qu'on a envie d'un pilote, qu'il monte et qu'on va le mettre dans la lumière. Mais il ne faut pas le laisser attendre sans information et sans avenir. Et Piastri, en fait, il a fait une chose, il a signé un contrat avec McLaren le 4 juillet, ne sachant pas si ce contrat était valide. Il faut bien dire les choses comme elles sont, parce qu'il s'est dit avec peut-être un petit peu de chance, disons qu'il n'y aura pas d'histoire parce que
Alonso va
prolonger. Et puis, ils se sont dit quand même, de toute façon, s'ils le choisissent chez Alpine, il leur avait déjà dit qu'il ne voulait pas continuer, il avait donné cette information, eh bien, ils se disaient, ça va se traduire au bureau de reconnaissance des contrats.
De toute façon, oui, clairement, là, on parle de Oscar Piastri, mais c'est aussi Mark Webber, hein, son manager. On savait qu'à un moment, il y aurait débat. Quoi qu'il se serait passé, il y aurait eu débat et il y aurait eu forcément action quelque part. Donc cette date du 4 juillet, moi je la trouve très très instructive. Stéphane, on va en profiter du coup, parce que ça fait un baquet d'officialiser en plus sur l'effectif 2023. Le voici, cet effectif 2023, avec donc Red Bull, Max Verstappen, Sergio Perez, pas de changement pour Ferrari, pour Mercedes, hein, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Aston Martin, donc Lance Stroll sera aux côtés de Fernando Alonso. Chez McLaren, ça y est, c'est officiel, Lando Norris avec Oscar Piastri, et puis ensuite, on attaque Esteban Ocon, et on a mis Pierre Gasly, parce que pour nous, c'est ce qui va se passer. On va y revenir, on termine et on y revient, parce que je sais que tu as des choses à dire. Je t'ai vu là prendre ta respiration, je te connais. Alfa Romeo avec Valtteri Bottas et probablement Guanyu Zhou qui devrait rester. As, Kevin Magnussen va rester. Et on se dit que Daniel Ricciardo, ça serait très très bien du côté de chez As. Alfa Tauri, Yuki Tsunoda. Et Colton Herta, il est dans l'équation qui devrait emmener Pierre Gasly chez Alpine. Et puis enfin, Williams, Alexander Albon et Nick De Vries. Voilà donc.
Quand tu parles de Guanyu Zhou qui va rester chez Alfa Romeo, je me disais, c'est plutôt ces 30 millions d'euros qui vont rester chez Alfa Romeo. Voilà, parce que c'est le plus gros pilote payant. Je veux dire, il est là pour cette raison-là. Et puis, les autres, Alpine,
oui.
C'est plus une conséquence de l'affaire Piastri, évidemment, mais c'est un beau projet. Et là, qui avance vraiment, parce que Helmut Marko vient de dire, nous avons un accord verbal avec Colton Herta. Il veut bien rejoindre AlphaTauri sous condition d'obtention de la super licence.
Eh oui, alors, parce qu'il ne l'a pas.
Dans un autre temps, avec Bernie Ecclestone, ça sera réglé depuis longtemps, parce qu'il aura
fait une réunion. Bouge pas, Colton.
Et puis, il met tout le monde d'accord, et puis il a l'accord de la FIA. Bon, on va passer par le canal officiel et essayer de faire en sorte que de montrer. Alors Helmut Marko dit qu'il a quand même gagné 7 courses en IndyCar, c'est vrai que c'est un pilote sérieux. C'est là où on voit que il y a une différence de gradation entre les points marqués pour un championnat IndyCar et puis pour la Formule 1, ce qui est peut-être un petit peu normal, ou la Formule 2. Donc il lui en manque un petit peu, mais normalement je dirais que ça va passer.
Oui, voilà. Oui. Et c'est pas scandaleux, parce que les circuits en IndyCar, quand tu as fait quelques saisons, tu as de l'expérience. En termes de circuits routiers, c'est quand même du chaud. Et donc, Colton Herta, que tout le monde aimerait bien, en tout cas la Formule 1 aimerait bien le voir arriver, parce que c'est un Américain et qu'on vous a parlé suffisamment. Hein, il y aura 3 Grands Prix l'année prochaine aux États-Unis. On veut un pilote américain. Donc, on mettrait Colton Herta à la place de Pierre Gasly chez Alpha Tauri. Et donc, Pierre Gasly, il irait chez Alpine. Voilà comment, finalement, indirectement, Colton Herta pourrait être un allié, et donc la Formule 1 pourrait être un allié pour Alpine et pour Pierre Gasly, pour se retrouver chez les Bleus. Même si j'ai bien aimé l'analyse aussi de Jacques Villeneuve ce week-end, qui disait qu'avoir 2 Français dans une équipe de Formule 1 française, c'était un petit peu à contre-courant, un peu anachronique. C'est vrai, il a raison, parce qu'on... On choisit aussi parfois la nationalité des pilotes en fonction des marchés sur lesquels on veut s'illustrer. Bon, là, on est un peu à contre-courant. Écoutez, si ça marche, on sera content d'être à contre-courant.
On sera ravis. Et ce qui est marrant, c'est que Colton Herta, on ne savait pas ce que ça donnait dans une Formule 1. Et là, McLaren a peut-être donné un coup de pouce à Alpine dans cette histoire, parce qu'ils ont fait rouler. Déjà, ils ont commencé à le faire rouler. Et je n'imagine pas une seconde que Helmut Marko n'ait pas appelé Zak Brown pour dire il est comment.
Ah, ça se trouve, il est nul, et l'autre, il a dit, il est super, prends-le.
Colton Herta, en fait, il y avait toute cette histoire, un pilote américain. Alors, indirectement, je dirais que c'est aussi un mauvais signal envoyé, parce que Stefano Domenicali, donc, qui est le boss du détenteur des droits du championnat du monde, ne veut pas d'une écurie Andretti en Formule 1. Et Andretti, Michael Andretti, qui veut monter cette écurie à partir de 2024, il a conclu un accord verbal, je dirais, avec Renault pour avoir les moteurs. Il voulait arriver avec un pilote américain du nom de Colton Herta. Et là, de façon un petit peu cynique, je dirais, ouais, ça enlève un argument à Andretti, ouais, pour arriver avec un pilote américain aussi, ce qui est un petit peu dommage. Mais
au final, c'est un peu la victime collatérale, oui, Michael Andretti, ouais, en tout cas son équipe dans cette affaire. Et évidemment, on serait content d'avoir deux Français chez Alpine. Je pense que ça serait une super aussi solution pour Pierre Gasly, qui a peut-être été un petit peu, un petit peu trop prudent durant cette saison 2022 pour la quête d'un volant. Il avait un contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine avec AlphaTauri. Il est très loyal envers son équipe parce que ça reste son équipe et il y est fondamentalement attaché. Mais on a le sentiment qu'il a loupé le coche à un moment, on l'avait évoqué, hein, je crois, dès le premier tiers de la saison, on avait dit « Ah, quand même McLaren !» Quand on voyait les difficultés de Ricciardo, on se disait « Quand même McLaren, ça serait une belle destination pour Pierre Gasly. » Et ça n'a pas trop bougé, ça n'a pas trop imprimé dans le clan du Français. On ne s'est pas trop signalé. Alors, il y a des pilotes qui sont très, très doués pour faire la danse du ventre dans le paddock, à tort et à raison, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout le cas de Pierre Gasly. Lui, il se concentre sur son job de pilote et quelque part, si je vous plais, venez me chercher. Ouais, ça ne marche pas totalement comme ça. Donc, s'il arrive à s'en sortir avec un volant l'année prochaine chez Alpine, qui pourrait être un volant intéressant, il s'en sortira très, très bien. Et le constructeur français aussi.
Oui, et puis l'histoire des deux pilotes français sous un même toit, c'est déjà arrivé, ça ne fait pas peur. Il y a
ça
des
fait
pilotes
hein,
de nationalités différentes qui se détestent, mais qui arrivent à travailler, qui arrivent à être pro. Il y a eu un peu de tout, donc on ne va pas s'arrêter à ce genre de considération. C'est une belle idée, je trouve, vraiment. C'est un beau projet qui va être séduisant s'il se fait, hein, parce qu'il n'est pas encore fait. Mais ça va peut-être se décanter assez rapidement parce que Helmut Marko a dit très clairement, il a envoyé un message à la FIA, hein, en disant « Moi, je veux une réponse avant Monza sur le cas Colton Herta. Ouais. » Et là, je pense que tout pourra se faire dès lors très, très vite.
Eh ben écoutez,
sans voilà, oublier que AlphaTauri reste quand même une écurie italienne. Donc, ils espèrent peut-être aussi faire une annonce à Monza. On ne sait jamais si ça va vite. En tous les cas, tout le monde est d'accord. Il ne manque plus que l'aval de la FIA.
Exactement. Et l'accord donc du CRB aussi pour valider le contrôle le contrat de Colton Herta. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur donc la conclusion de cette affaire Piastri et l'avancement de Pierre Gasly du côté de chez Alpine. Évidemment, si il y a officialisation de tout ça, ça sera retrouvé sur le site eurosport.fr, évidemment, pour tout ce qui est de la Formule 1 et du sport en général. Je crois qu'on a été plutôt complet, mon cher Stéphane. Si, il nous reste à vous donner les horaires du Grand Prix d'Italie. Évidemment, le week-end prochain, les premiers essais libres à 14h vendredi. Ensuite, la qualif samedi à 16h et le Grand Prix aura lieu, lui, dimanche à 15h pour donc ce dernier rendez-vous européen du championnat 2022. Ensuite, on mettra le cap sur l'Asie, sur le continent américain, avant de terminer à Abu Dhabi. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner plutôt 5 étoiles, c'est mieux. Et aussi à vous abonner. De cette manière, vous recevrez directement votre prochain épisode directement sur votre smartphone. Et ben, on en a dit beaucoup des choses. Et du coup, on vous avait promis de parler d'Audi. On attend encore un peu parce que
il y a encore des développements.
Il y a des choses qui mijotent. Alors, ça ne sert à rien qu'on y revienne 50 fois. Donc, on attend. Ne vous inquiétez pas. On vous donnera des nouvelles. Stéphane, on a tout dit ?
J'espère.
Bon, alors il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon Grand Prix d'Italie. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour en parler dans les fous du volant. Profitez bien. Et d'ici là, on coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.